Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Cette description d'une communauté idéale nous paraît presque trop belle. Il y a comme cela dans le livre des Actes des Apôtres quatre petits tableaux, des résumés de la vie des tout débuts de l'Église, de quoi nous faire rêver. N'en déduisons pas que tout était rose pour les premiers chrétiens. Nous aurons l'occasion au cours des dimanches qui viennent de voir qu'ils ont rencontré des difficultés de toutes sortes. Ils étaient des hommes, nos premiers chrétiens, pas des surhommes. Pourquoi Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, a-t-il émaillé son livre de ces tableaux trop beaux ? En retenant de préférence les réussites des premières communautés, il veut peut-être nous encourager à avancer dans le même sens. Car une communauté fraternelle est une condition indispensable de l'annonce de la bonne nouvelle. Et la seule chose qui compte, c'est ça, que la bonne nouvelle soit annoncée. Et ce qui a frappé Luc, c'est que rien n'a pu empêcher l'Église naissante de se développer. La contagion de la bonne nouvelle s'est répandue irrésistiblement. Pour l'instant, nous sommes encore à Jérusalem, ce qui veut dire que la résurrection du Christ est encore proche dans le temps. Plus précisément, nous sommes au temple de Jérusalem, sous la colonnade de Salomon. Tout le mur est du temple était en fait une colonnade qui bordait une allée couverte très large. C'était un lieu de passage et de rencontre, accessible à tous, parce qu'il ne faisait pas partie des enceintes réservées aux Juifs. Cette remarque de Luc, « Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon » est très révélatrice. Elle prouve que dans un premier temps, après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres n'ont pas tout de suite cessé de fréquenter le temple. Ils sont juifs, et ils le restent. Leur foi juive n'est d'ailleurs que plus forte après tous ces événements, puisque à leurs yeux, les promesses de l'Ancien Testament sont enfin accomplies. Le fossé entre les chrétiens et les juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie ne se creusera que peu à peu. Mais on sent un peu déjà dans le texte d'aujourd'hui l'amorce de cette séparation. Je vous rappelle le texte. « Tous les croyants, sous-entendus chrétiens, d'un seul cœur, se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. » Cela veut dire qu'ils formaient déjà un groupe à part au sein du peuple juif. Dans la deuxième partie du texte, Luc fait de toute évidence un parallèle avec les débuts de la prédication de Jésus lui-même. À propos des apôtres, il écrit « Une foule venue des villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Le même Luc écrivait dans son évangile à propos de Jésus « Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades de toutes sortes les lui amenaient, et lui, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des démons aussi sortaient d'un grand nombre. » C'est au chapitre 4 de Luc. Or, quand le prophète Isaïe annonçait la venue du Messie, que disait-il ? Il disait « Alors les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. » Isaïe chapitre 35. Et quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus demander à Jésus, ils sont venus lui demander « Es-tu vraiment le Messie ?» Jésus a répondu dans les mêmes termes. « Allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'est Luc chapitre 7. En insistant sur les guérisons opérées par Pierre et les apôtres, Luc veut donc nous dire, c'est bien la même œuvre du Messie qui continue. Les apôtres ont pris le relais. Alors on comprend où il veut en venir. Il fait l'histoire des apôtres dans le but bien précis de dire à sa communauté, à vous maintenant de prendre le relais des apôtres. Le Christ compte sur vous. Grâce à ce témoignage des apôtres, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéraient au Seigneur par la foi, nous dit Luc. Ils adhèrent au Seigneur, non aux apôtres, mais au Seigneur par les apôtres. L'évangélisation du monde a besoin d'évangélisateurs. Luc nous dit encore une fois, à bon entendeur, salut. À relire d'un peu plus près encore ces versets, je remarque une chose. Saint Luc n'attribue pas d'abord les conversions nombreuses aux miracles opérés par les apôtres. Je reprends le texte. « Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge et des hommes et des femmes, de plus en plus nombreux, adhéraient au Seigneur par la foi. » Du coup, on peut se demander, le jour où on pourra en dire autant de nos communautés paroissiales, elles n'ont qu'un seul cœur. Peut-être ce jour-là, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéreront-ils au Seigneur ?
Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu.
Psaume 117. Que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Nous avons déjà chanté ce psaume 117, 118 dans la Bible, pendant la nuit pascale et aussi le jour même de Pâques. Et chaque dimanche ordinaire, il fait partie de l'office des laudes dans la liturgie des heures, ou le bréviaire si vous préférez. Pas étonnant. Pour les Juifs, ce psaume concerne le Messie. Et pour nous, chrétiens, quand nous célébrons la résurrection du Christ, nous reconnaissons en lui le Messie attendu par tout l'Ancien Testament, le roi véritable, le vainqueur de la mort. Et c'est donc à ce double niveau de l'attente juive et de la foi chrétienne que je vous propose de l'entendre. Dans la foi juive, c'est un psaume de louange. Il commence d'ailleurs par le mot « Alléluia », qui signifie « louer Dieu » et qui donne bien le ton de l'ensemble. Ensuite, il comporte 29 versets. Et sur cet ensemble de 29 versets, il y a plus de 30 fois le mot « Seigneur », les fameuses quatre lettres du nom de Dieu en hébreu, YHVH, ou au moins « Yah » qui en est la première syllabe. Et ce sont autant de phrases de louange pour la grandeur de Dieu, pour l'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu pour son peuple. Une vraie litanie. Ce psaume de louange est chanté pour accompagner un sacrifice d'action de grâce au cours de la fête des tentes. Cette fête tellement importante qui dure 8 jours en automne. Je commence par vous raconter le déroulement de cette fête des tentes. Le rite le plus visible pour des étrangers se situe hors du temple. Pendant toute cette semaine, on habite, même en ville, dans des huttes de branchage, les tentes ou tabernacles, d'où le nom de cette fête, en mémoire des tentes du désert et aussi de la protection de l'ombre de Dieu pendant l'Exode. D'autres rites se déroulent à l'intérieur du temple, des célébrations de toutes sortes, dont le point commun est le renouvellement de l'Alliance. Célébrations au cours desquelles chaque pèlerin brandit des rameaux en les agitant. Plus exactement, il s'agit d'un petit bouquet soigneusement lié, qu'on appelle le bouquet de loulave. Il est composé d'une palme, d'une branche de myrte, d'une branche de saule et d'un cédra, c'est une sorte de petit citron. Enfin, pendant certains offices, on fait une immense procession autour de l'autel en agitant ces bouquets de loulave et en chantant des psaumes entrecoupés de « Hosanna » qui signifie à la fois en hébreu « Dieu sauve » et « Dieu sauve-nous ». Et puis il y a également des rites de libation d'eau et une grande illumination du temple le soir du dernier jour. Saint Jean y fait allusion, pardon, et c'est le sens du dernier verset. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Cette fête des tentes est une fête pleine de ferveur et de joie, car elle anticipe la venue du Messie. On rend grâce pour le salut déjà accompli et on accueille le Sauveur qui vient, qui ne saurait tarder. Et c'est le sens de l'acclamation « Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ». Dans les quelques versets retenus pour la liturgie de ce dimanche, nous ne retrouvons pas tous les éléments de la fête des tentes. Mais nous avons ressenti la joie qui habite les croyants. Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et jour de joie. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Cette bonté du Seigneur, le peuple d'Israël l'a expérimentée tout au long de son histoire. De nombreuses fois, il a frôlé l'anéantissement, mais à chaque fois, le Seigneur l'a relevé. Et c'est pourquoi il célèbre cette grande fête des tentes, en attendant le salut définitif que toute l'humanité attend au jour de la venue du Messie. Pour les chrétiens maintenant, tout d'abord, on remarque la parenté entre la fête juive des tentes et l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que nous commémorons, nous, dans la fête des rameaux. Mais surtout, la jubilation qui court dans ce psaume convient au ressuscité du matin de Pâques. Il est ce roi victorieux. Les évangélistes, chacun à sa manière, nous l'ont présenté comme le roi véritable. Pour n'en citer qu'un, par exemple, Matthieu a construit l'épisode de la visite des mages de manière à bien nous faire comprendre que le véritable roi n'est pas celui que disent les historiens, Hérode, mais l'enfant de Bethléem. Ou bien Jean, dans le récit de la Passion, nous présente Jésus comme le vrai roi des Juifs. En méditant le mystère de ce Messie rejeté, méprisé, crucifié, les apôtres ont découvert un nouveau sens à ce psaume. Jésus est cette pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs et qui devient la pierre maîtresse. Rejetée par son peuple, il est devenu la pierre de fondation de l'Israël nouveau. Il est vraiment celui qui vient au nom du Seigneur, comme dit le psaume. L'expression même a été employée, rappelez-vous, lors de son entrée solennelle à Jérusalem. Enfin, on se souvient que ce psaume était chanté à Jérusalem à l'occasion d'un sacrifice d'action de grâce. Jésus, lui, vient d'accomplir le sacrifice d'action de grâce par excellence. Il est l'Israël nouveau qui rend grâce à Dieu son Père. Et c'est même ce qui caractérise Jésus. Toute son attitude envers son Père n'est que action de grâce. Et c'est cela justement qui inaugure entre Dieu et l'humanité l'alliance nouvelle. Celle où l'humanité n'est que réponse d'amour à l'amour du Père.
Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. » J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Le mot apocalypse vient du grec. Il signifie révélation, dévoilement, au sens de retirer un voile. Il s'agit pour Jean de nous révéler le mystère de l'histoire du monde, mystère caché à nos yeux. Parce qu'il s'agit de nous révéler ce que nos yeux ne voient pas spontanément, le livre se présente sous forme de vision. Par exemple, le verbe « voir » est employé 5 fois dans le simple passage d'aujourd'hui. Ce mot de « apocalypse », malheureusement, n'a pas eu de chance. Il est devenu presque un épouvantail, ce qui est le pire des contresens. Car, à sa manière, l'Apocalypse est, comme tous les autres livres bibliques, une bonne nouvelle. Toute la Bible, dès l'Ancien Testament, est le dévoilement du mystère, du dessein bienveillant de Dieu, comme dit la lettre aux Éphésiens, le projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Les Apocalypses sont un genre littéraire particulier. Mais comme tous les autres livres bibliques, elles n'ont pas d'autre message que l'amour de Dieu et la victoire définitive de l'amour sur toutes les formes du mal. Ce qui fait l'une des difficultés de ce genre littéraire, ce sont les visions, souvent fantastiques et difficiles à décrypter, pour nous tout au moins. Tout est là. Ce n'était pas difficile pour les destinataires, mais c'est difficile pour nous qui ne sommes plus dans leur situation. Mais pourquoi parler sous forme de vision? Pourquoi ne pas parler en clair? Ce serait tellement plus simple. Et non, justement. L'Apocalypse de Saint Jean, comme tous les livres du même genre, il y en a eu plusieurs, des apocalypses écrites par des auteurs différents, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après. Une apocalypse est toujours écrite en temps de persécution. À Patmos, Jean ne fait pas du tourisme. Il y a été exilé. Et parce qu'on est en pleine persécution, une apocalypse est un écrit qui circule sous le manteau pour remonter le moral des troupes. Le thème majeur, c'est toujours la victoire finale de ceux qui sont actuellement opprimés. Jean leur dit « Apparemment, vous êtes vaincus et vos persécuteurs sont florissants. Mais ne perdez pas courage, Christ a vaincu le monde. Regardez, il est vainqueur, il a vaincu la mort. » Les forces du mal ne peuvent rien contre vous, elles sont déjà vaincues. Le vrai roi, c'est le Christ. Évidemment, un tel discours ne peut pas être trop explicite, puisque le danger est grand de le voir saisi par le persécuteur. Alors, on raconte des histoires d'un autre temps et des visions fantasmagoriques. Tout ce qu'il faut pour décourager la lecture par des non-initiés. Par exemple, Saint Jean dit tout le mal possible de Babylone, qu'il appelle la grande prostituée. Pour qui sait lire entre les lignes, il s'agit évidemment de Rome. Le message de toute l'Apocalypse est celui-là. Les forces du mal pourront se déchaîner, elles ne l'emporteront pas. Et c'est ce qui explique le triste contresens que nous faisons souvent sur le mot « apocalypse ». Car on y trouve effectivement la description du mal déchaîné. Mais on y trouve bien plus encore l'annonce de la victoire de Dieu et de ceux qui lui seront restés fidèles. Je reviens à l'Apocalypse de Saint Jean. Puisqu'elle fait partie du Nouveau Testament, son personnage central, bien évidemment, c'est Jésus-Christ. Il est au centre de toutes les visions. Dans la lecture de ce dimanche, Cette victoire du Christ nous est présentée dans une vision grandiose. C'est un dimanche également, c'est-à-dire le jour où l'on célèbre la résurrection du Christ. Jean a l'impression de revivre comme une nouvelle Pentecôte, une voix puissante comme une trompette, le souffle de l'Esprit. Il est saisi. Au milieu de 7 chandeliers d'or, un être de lumière lui apparaît, un fils d'homme. Dans le vocabulaire du Nouveau Testament, le fils de l'homme est l'une des expressions pour dire le Messie. Pour Jean, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est le Christ. Alors, comme tout homme mis soudainement en présence de Dieu, Jean tombe à ses pieds et il s'entend dire « Sois sans crainte ». Et il entend les paroles de victoire. « Je suis », c'est le nom même de Dieu, « je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, le victorieux de la mort, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et, comme toujours, ce genre de vision est vocation pour une mission au service de ses frères. « Écris ce que tu auras vu », sous-entendu, « va encourager tes frères ». Le passé, le présent, l'avenir m'appartiennent. On entend ici résonner la promesse du Christ, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. »
Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noëlle Tabu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quand Jean écrit, c'était le soir du premier jour de la semaine, ce n'est pas seulement une précision matérielle qu'il nous donne. C'est plutôt comme un clin d'œil. Quand il écrit son évangile, il y a déjà à peu près 50 ans que les fêtes se sont passées. 50 ans que les chrétiens se réunissent chaque dimanche pour fêter la résurrection de Jésus. Le clin d'œil, c'est, vous comprenez, pourquoi on se rassemble chaque dimanche ? Et d'ailleurs, notre mot français vient du latin « dies dominicus », qui veut dire « jour du Seigneur ». Chaque dimanche, nous annonçons que le jour du Seigneur, le jour de la création nouvelle, est enfin venu. Le dessein bienveillant de Dieu est enfin accompli. C'est précisément ce jour-là, le premier jour de la semaine, que le Christ donne l'Esprit à ses disciples. comme le prophète Ézéchiel l'avait annoncé, je cite, « Je mettrai en vous mon propre esprit ». Jésus souffle sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et Jean a repris intentionnellement le mot du livre de la Genèse. « Comme Dieu a insufflé à l'homme la laine de vie, Jésus inaugure la création nouvelle en insufflant à l'homme son esprit ». En écho, la quatrième prière eucharistique rend grâce pour le don de l'esprit, le premier don fait aux croyants. Dans la Bible, l'esprit est toujours donné pour une mission. Et effectivement, Jésus est venu pour confier à ses disciples leur mission. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». À Pilate, 3 jours auparavant, il a dit « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». Et Pilate avait posé la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus confie à ses disciples la mission d'annoncer à leur tour au monde la seule vérité, la seule dont les hommes ont besoin pour vivre. Dieu est Père, il est amour, il est pardon et miséricorde. « Je vous envoie ». On se rappelle que les disciples étaient verrouillés. Et il leur dit « Je vous envoie ». C'est-à-dire, il n'est plus question de rester verrouillé. La mission est urgente. Le monde meurt de ne pas savoir la vérité. Il est, comme dit Jésus, maintenu dans son péché, c'est-à-dire dans son éloignement d'avec Dieu. Il n'y a pas d'autre mission en définitive que de réconcilier les hommes avec Dieu. Tout le reste en découle. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. On pourrait traduire, allez annoncer que les péchés sont remis, c'est-à-dire pardonnés. Soyez les ambassadeurs de la réconciliation universelle. Et si vous n'y allez pas, cette nouvelle de la réconciliation ne sera pas annoncée. Le Père vous confie cette mission urgente et indispensable, comme le Père m'a envoyé. On a ici, de la bouche même de Jésus-Christ, un résumé de toute sa mission. C'est comme s'il nous disait « Le Père m'a envoyé pour annoncer la réconciliation universelle, pour annoncer que les péchés sont pardonnés, que Dieu ne tient pas compte des péchés des hommes. » Annoncer une seule chose, que Dieu est amour et pardon. À votre tour, je vous envoie pour la même mission. Le premier péché, celui qui est la racine de tous les autres, c'est de ne pas croire à l'amour de Dieu. Vous donc, je vous envoie. Allez annoncer à tous les hommes l'amour de Dieu. Reste la phrase, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Être maintenu dans son péché, c'est vivre hors de l'amour de Dieu. Il dépend de vous, dit Jésus, que vos frères connaissent l'amour de Dieu et en vivent. Le projet de Dieu ne sera définitivement accompli que quand vous, à votre tour, aurez accompli votre mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noëlle Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.